France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, à l'écoute de France Culture en ce dimanche 8h30, Jean-Luc Gadreau avec vous pour Solae, ce rendez-vous protestant qui vous est proposé chaque dimanche matin par la Fédération protestante de France. Attester, un mot ancien, presque solennel, un mot qui parle de vérité, de fidélité, de courage aussi. On verra cela d'ailleurs avec Vincent tout à l'heure qui reviendra sur ce verbe. Attester, ce n'est pas seulement croire, c'est tenir debout ce que l'on croit dans sa vie, dans ses choix, dans ses paroles. Et aujourd'hui, dans Soleil, le rendez-vous protestant, nous recevons René Launégro, président du mouvement Les Attestants de l'Église protestante unie de France. C'est un mouvement qui fête cette année ses 10 ans et qui invite l'Église à revenir aux essentiels de la foi, non pas comme des certitudes figées, mais comme une parole à habiter. Nous allons en parler ensemble. Bonjour René Launégro.
Bonjour Jean-Luc.
Bienvenue dans Solae.
Merci de me recevoir.
Avant d'être président des attestants, qui êtes-vous comme croyant, comme homme, comme protestant même?
Ah, c'est difficile parce que j'aime pas beaucoup parler de moi, mais disons que je suis un homme de 66 ans. Je suis marié avec Cécile depuis 43 ans. Nous avons 3 enfants et nous avons la joie que nos enfants sont tous investis dans leurs églises, là où ils sont. Je suis un jeune retraité. Et donc, nous avons également 10 petits-enfants, donc ça occupe bien cette retraite.
C'est ça, ce sont des retraites actives.
C'est des retraites assez actives.
Surtout que vous faites pas mal de choses aussi.
Je fais quelque chose par ailleurs, en plus des attestants. Professionnellement, j'ai fait toute ma carrière dans des sociétés internationales d'informatique, dans lesquelles j'ai eu des responsabilités. Ça m'a amené à voyager pas mal dans le monde, bien entendu partout en Europe, mais également en Amérique du Nord, et puis beaucoup aussi en Asie, Corée, Japon, Chine, Malaisie, Australie.
Y a-t-il dans votre parcours un moment où la foi est devenue plus qu'une tradition, ce que l'on pourrait appeler sans doute une expérience personnelle?
Absolument. Alors moi j'ai un cursus un peu particulier parce que comme mon nom l'indique peut-être, mes racines sont italiennes, voire même siciliennes. Je suis la 4e génération de Siciliens nés en Tunisie, en Afrique du Nord.
D'accord.
Au moment de la décolonisation, ma famille d'ailleurs est partie en Argentine, donc j'ai passé une partie de mon enfance en Argentine. Et culturellement, dans ma famille, on est sicilien, donc
pas
catholique,
protestant.
Pas du tout protestant. Catholique, avec ce que ça peut avoir, je le dis sans aucun jugement de valeur et sans que ce soit péjoratif, une dimension un peu superstitieuse. Vous voyez, on est attaché au culte des saints, compris chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose qui va pas. On aime beaucoup tout ce qui est décorum. Mais voilà, une foi catholique un peu particulière. Et il se trouve que j'ai fait une expérience spirituelle à l'adolescence dans les milieux du scoutisme unioniste parisien. Dans les années 80, enfin fin 70-80, il y avait vraiment un mouvement de réveil et d'interpellation sur la foi, le sens de la vie, etc. en région parisienne. Et moi, j'étais scout à cette époque et j'ai été interpellé. Et donc j'ai fait une expérience spirituelle, ce que certains, dans certains milieux, appellent une conversion.
Ouais.
Donc je peux dire en tout cas qu'il y a eu un avant et un après. Et cette conversion, elle m'a amené plutôt dans le monde protestant parce que c'était plus conforme à ma lecture de l'Évangile, ma lecture de la Bible, également ma façon d'appréhender la foi. Voilà. Et donc, voilà comment je suis tombé, entre guillemets, dans le protestantisme en venant de ce catholicisme sicilien.
Et puis donc, il y a 10 ans, le mouvement des attestants secrets, on va en parler. Qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a conduit à vous engager dans ce mouvement ?
Alors, le sentiment que je pouvais servir dans ce mouvement, de par mon histoire, j'ai une histoire, un passé catholique, mais également une histoire luthéro-réformée, mais j'étais aussi assez proche des milieux évangéliques, et donc je pense que j'ai une culture d'interface, de gestion des frontières, de dialogue entre les différentes sensibilités, ce que j'ai fait également professionnellement dans ma carrière, hein. Et donc, je pense que j'ai pensé pouvoir être utile dans ce mouvement. Et ce mouvement me semblait aussi indispensable pour travailler à une réformation, pour utiliser un terme protestant, à un réveil de notre Église EPUDF, luthéro-réformée, que j'appelais et que je continue à appeler de mes voeux. Donc ça me semblait un enjeu vraiment essentiel pour l'avenir d'une Église à laquelle je tiens beaucoup, alors, qui m'a énormément apporté.
Alors allons justement sur ce que sont les attestants. Est-ce que vous pouvez, d'une façon assez simple et compréhensible pour tout le monde, nous présenter ces attestants qui fêtent donc leur 10 ans, même si j'ai dit certaines choses en introduction, j'aimerais avoir votre approche personnelle.
Alors je vais essayer, c'est pas simple, mais alors les attestants, c'est un mouvement, c'est une association loi 1901, c'est un mouvement qui s'est créé donc il y a une dizaine d'années, qui regroupe des membres de l'EPUDF, hein, l'Église protestante unie de France. Alors parmi nos membres, on a deux types de membres, on a des membres pour lesquels il est exigé qu'ils soient membres de l'EPUDF, et on a également des amis qui ont un statut un petit peu différent dans notre association. Et cette association, en fait, elle regroupe des frères et sœurs, donc essentiellement membres de l'EPUDF, qui souhaitent porter une certaine vision de l'Évangile, de l'annonce de l'Évangile, de la vie de l'Église, une vision de l'Église et de l'annonce de l'Évangile qui soit vraiment enracinée dans l'héritage apostolique et fidèle aux principes de la Réforme. Alors, ça ne veut pas dire tenant d'une foi sclérosée ou ancienne ou qui se situerait en réaction, en étonnant également d'une foi et d'une annonce de l'Évangile moderne, vivante, adaptée à notre temps, mais sans jamais oublier et sans jamais renoncer à cet héritage apostolique et à ce lien avec la Réforme. On se retrouve totalement dans toutes les expressions classiques de la foi, notamment dans les confessions de foi historiques de nos églises. Voilà. Et on souhaite que ce courant-là soit porté dans les PUDF. Alors, je vais juste rajouter un tout petit peu, je ne voudrais pas être trop long. Et il se trouve que ce courant était constitutif de ce qui était l'ERF à sa création en 1938. Et ce courant, c'est historiquement...
Alors, ERF, Église Réformée de France.
Et ce courant, c'est historiquement, au fil du temps, ressenti, alors je dis pas que c'est vrai, mais ressenti de plus en plus marginalisé, de moins en moins représenté, notamment dans les instances de l'ERF, donc de l'Église réformée de France, puis de l'EPUDF, jusqu'à un moment de crispation qui a fait que un certain nombre de gens, dont moi-même et beaucoup d'autres, avons ressenti le besoin de dire non, maintenant il faut nous structurer pour porter une parole de façon à ce que notre parole soit entendue par notre Église, qu'elle ait de la valeur pour notre Église et qu'elle permette également à notre Église d'évoluer, de se réformer, de retrouver un certain nombre de choses.
Ça représente combien de personnes
Alors aujourd'hui, les attestants, c'est à peu près 1000 membres, oui. Un peu moins de 1000 membres et un peu plus de 3000 amis. Donc comme je le disais, pour être membre, il faut être paroissien d'une Église EPUDF. Pour être membre, c'est pas indispensable. Donc on a beaucoup de nos membres qui sont paroissiens EPUDF, mais qui souhaitent pas... être considérés comme membres, mais qui veulent être considérés comme ennemis. Mais on a également des frères et sœurs venant d'autres églises, d'autres horizons, qui souhaitent s'associer à notre démarche et à notre route.
Et donc en janvier 2016, à la création du mouvement, dans votre déclaration d'intention, il y a cette phrase qui est d'ailleurs bien visible sur le site internet et que je souhaitais lire ici, que se fédère dans l'Église protestante unie de France un mouvement de chrétiens attestant leur foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, soucieux de l'autorité souveraine de la parole biblique pour la vie des croyants, priant pour le renouveau de cette foi au sein de l'EPUDF et œuvrant pour la croissance de l'Église. Dans une Église plurielle comme l'EPUDF, et comme pourrait-on dire dans toutes les unions d'Église aujourd'hui, ou presque en tout cas, comment cette déclaration va-t-elle, et se traduit-elle d'ailleurs, pour le dire au présent, sur le terrain, dans le concret des églises et des croyants?
Alors je pense qu'il y a quatre points principaux à notre action et qui se retrouvent dans cette déclaration d'intention. Le premier, c'est ce qu'on met derrière fédérer. C'est-à-dire que notre mouvement, il a vocation à permettre à des gens qui sont épars, parfois isolés dans leur paroisse, parfois se sentant décalés par rapport à ce qui se passe dans leur paroisse, d'avoir un point de repère en disant « je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul à avoir cette vision de la foi, je ne suis pas seul à avoir cette forme de spiritualité. Et donc de pouvoir se raccrocher finalement à quelque chose qui va au-delà de leur paroisse et qui a vocation à rassembler donc des frères et sœurs qui partagent leurs options spirituelles. Donc ça, c'est la partie fédérée. Après, il y a toute une partie sur l'action. C'est-à-dire que nous souhaitons servir l'Église et servir le monde. Alors on le sert à travers... différentes méthodes, différents canaux. Par exemple, alors je vais vous citer quelques exemples, nous animons un site qui s'appelle Mille et une questions, qui est un site web, qui est un des sites les plus visités dans le monde chrétien francophone, où des gens peuvent poser des questions,
toutes sortes de questions, très simples, très simples, voilà.
Un collectif de pasteurs va essayer d'apporter une réponse simple, courte, adaptée, moderne aux questions qui peuvent se poser. Alors, c'est des questions de toute nature, hein. Ça peut être des questions théologiques, des questions éthiques, des questions existentielles, voilà. Et on essaye, donc nous animons ce site, c'est une des actions que nous faisons. Nous animons des groupes de prière pour des chrétiens, pour des membres de l'EPUDF qui sont isolés dans leur paroisse, qui n'ont pas de groupe de prière dans leur paroisse, et bien on leur permet d'avoir comme ça un groupe de prière à distance, et donc d'avoir cette vie de prière. Nous produisons des publications, essentiellement en direction des groupes de maison et des groupes de prière, pour les aider à gérer leur quotidien, en général sur une année. Donc à ce jour, on a produit 3 publications qui permettent donc à des groupes de prière ou à des groupes de maison de faire leur animation ou de faciliter leur animation. Nous mettons également en place des retraites, que ce soit des retraites pastorales ou des retraites de laïcs, même si j'ai horreur de ce terme. Puis nous animons des séminaires. Et enfin, nous mettons en place des programmes de formation. Alors par exemple, sur les séminaires, en 2025, nous avons eu 2 séminaires généralistes. Un premier en mars, à l'occasion des 1700 ans de Nicée-Constantinople, sur l'actualité de Nicée-Constantinople. Qu'est-ce que cette déclaration nous dit à nous aujourd'hui, au XXIe siècle, du Christ et de la façon dont le Christ se révèle à nous, chrétiens, et se révèle au monde. Donc, on a travaillé toute une journée en liaison avec des mouvements frères, belges, suisses et alsaciens. On avait un programme partagé entre les 4 mouvements. On était en multiplex et on a tous travaillé ensemble sur ce thème. Un autre exemple donc d'un séminaire qu'on a eu en novembre, qui était sur... il nous semble que c'est important pour l'Église d'être un lieu de dialogue dans un monde qui est de plus en plus crispé, de plus en plus fragmenté, de plus en plus radicalisé. Et cet esprit du monde est aux portes de nos églises, parfois même dans nos églises. Donc comment vivre l'unité dans cette diversité, dans un monde qui nous pousse à la fragmentation et qui nous pousse à la radicalité. Et donc c'était le thème de notre séminaire de novembre 2025. Voilà.
Et en parlant de formation, il y en a une qui démarre là, maintenant, en février. Formation mensuelle, cette fois-ci, sur les essentiels de la foi. À qui cette formation s'adresse-t-elle et que souhaitez-vous qu'elle produise dans les communautés et chez les croyants ?
Voilà. Alors, la formation, c'est un des points importants de l'action des attestants. Par exemple, nous avons participé à la mise en place d'un programme de formation pour des prédicateurs laïcs de l'EPUDF, qui s'appelle Prêcher, qui a eu 3 séances ces dernières années, qui a eu pas mal de succès d'ailleurs, qui rentre dans un second cycle depuis cette année. Donc, nous avons participé à ces créations de ça. Donc, l'objectif, c'était la cible, c'était des prédicateurs laïcs. Cette fois-ci, nous nous adressons à tous ceux qui s'intéressent à revisiter ce que nous appelons les essentiels de la foi. Donc la formation va se dérouler sur 10 séances. Pourquoi 10 séances ? Parce que 10 ans d'existence du mouvement, donc 10 séances, une séance par mois à partir du mois de mars. L'appellation de ce cycle, pour le moment, on réfléchit encore un peu au nom, mais pour le moment ça s'appelle « Il était une foi », avec un grand F à foi. Et l'idée, c'est de revisiter, encore une fois, des choses qui sont peut-être évidentes pour les uns et pour les autres, mais pour lequel on a besoin de revenir et de réfléchir aux fondamentaux. Par exemple, la christologie. Qui est le Christ pour nous ? Qu'est-ce que les évangiles nous disent du Christ ? Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit du Christ ? Donc revenir sur la figure du Christ. Le cycle péché-rédemption, sanctification, par exemple, c'est une thématique qui va être abordée dans cette formation. Comment dire et assumer le péché dans un monde où c'est devenu un gros mot. Et on ne peut plus parler de ça. Pourtant, c'est au cœur de la foi chrétienne. Nous sommes sauvés, nous sommes bien sauvés de quelque chose. Donc, de quoi sommes-nous sauvés ? Et par quels moyens sommes-nous sauvés ? La prière, c'est une évidence. Mais qu'est-ce que c'est que la prière ? Et pourquoi est-ce qu'on prie ? À quoi ça sert, ce truc ?
Donc, des choses très pratiques, très concrètes
de la vie de tous les jours. Le discipulat et le fait d'être membre d'église, sommes-nous appelés à être des membres d'Église ou sommes-nous à être appelés des disciples du Christ? Et comment s'articulent les deux aspects de cet appel? Vous voyez, donc, je vous ai cité quelques-uns des sujets de ces sessions qui vont avoir lieu, des 10 sessions qui vont se dérouler en 2026.
Et ça s'adresse à tout le monde?
Ben ça s'adresse à tous les chrétiens, enfin à tous les chrétiens.
Oui, à tous ceux qui ont envie de travailler,
qui veulent réfléchir plutôt. Mmh. Alors, bien entendu, la cible c'est plutôt des protestants et des protestants luthéro-réformés, hein, proches
oui,
de notre sensibilité. Voilà.
Dans
mais,
ce registre-là.
Mais il n'y a pas de, contrôle, il n'y a pas de barrière
bien sûr,
à l'entrée. Mais c'est des chrétiens qui veulent, encore une fois, réfléchir sur des choses qui sont peut-être acquises, tellement acquises qu'on n'y réfléchit plus. Et qu'on ne partage plus dessus.
Et comment participer à cette formation?
Alors, ben, pour avoir tous les renseignements, il suffit d'aller sur notre site internet, lesattestants.fr, lesattestants au pluriel,
tout
.fr,
accroché.
Tout accroché, et puis vous y trouverez toutes les informations sur nos activités et sur cette formation.
Avant de poursuivre notre échange, René Lonegro, je vous propose une halte sur le mot du jour, attester. Et pour faire cette halte sur ce mot, bien sûr, je retrouve Vincent Smetana, qui a toujours le mot pour dire, alors attestez. Bonjour.
Alors, bonjour Jean-Luc. Alors, pour que ce soit bien clair, Jean-Luc et chacune et chacun qui nous écoute ce matin, le texte de la chronique qui va suivre est protégé dès sa création. J'ai tout prévu. Un dépôt formel via des services dédiés, des plateformes de dépôt numérique, blablabla. Bref, tout ça crée une preuve légale de la paternité de cette écriture. Pour le dire autrement, je suis le papa de ce texte. Ce texte est mon enfant, en quelque sorte. Peut-être qu'on ne dirait pas ça, hein, à première vue, parce qu'il ne me ressemble pas. Je veux dire, physiquement, ce texte et moi ne partageons pas la même morphologie. Hein, c'est du bon sens. Vous êtes dans le studio, vous me voyez, vous m'aurez vu, vous pourrez donc facilement en témoigner, en attester. Ah, ça y est, j'ai dit le mot attester, mais oui. En protégeant mon texte, il sera attesté qu'il est bien de moi. Je pourrais en donner la preuve et même en témoigner. Vous, Jean-Luc, pourriez en témoigner, vous pourriez attester que c'est bien moi qui ai écrit ceci, parce que vous m'avez vu et entendu, vous avez touché le pan de mon blouson, mais d'ailleurs le simple fait que ce soit moi qui la lise, cette chronique en atteste, les auditeurs de cette émission pourraient en faire de même. Qu'est-ce que c'est que cette chronique? Ah oui, mais c'est lui, c'est le Belge. D'ailleurs, rien qu'à l'entendre, je reconnais le style, le ton, la voix, la façon. Oui, dirait chacune et chacun, nous en attestons. C'est bien lui, c'est bien le Belge.
Le Belge de service qui parle un peu vite, mais qui parle tellement bien. Avec un texte qui a du poil, du cheveu, ce qui peut-être le différencie quelque peu, en effet, de votre physionomie. Alors, attester, c'est le mot pour dire.
Ah oui, c'est bien moi, vous l'avez vu. Attester, transitif du premier groupe du latin attestare, in infinitif présent de attestor, dérivé de testor, pour prendre à témoin. Attester, donc certifier un fait, un événement, prouver la vérité de quelque chose, en être témoin. Écoutez ce que j'ai déniché pour vous dans ma bibliothèque. Alors, vous êtes sûr que ce n'est rien? Demande Babette en accompagnant Jaume jusqu'au seuil. Vous êtes sûr? Ne t'inquiète pas, j'en suis sûr, dit-il. C'est écrit ici. Et il tape du plat de la main sur le livre pour attester, écrit Jean Giono dans Colline. Peut-on dire donc qu'il suffit que ce soit écrit pour que ce soit vrai? Jean, un chrétien, peut-il simplement frapper du plat de la main sur la couverture de sa Bible ou brandir son smartphone hors de sa poche pour attester de la vérité de tout ce qu'il croit? C'est écrit tout partout, sur les pages. Les mots qu'il dit, et donc atteste tout ce que je dis, il y en a plein mon appli. C'est donc vrai. Non, c'est pas si simple.
C'est pas si simple. Non, en effet. Non. Et peut-être encore plus aujourd'hui avec la fameuse nébuleuse fake news qui déferle de partout, envahit nos espaces de communication, n'est-ce pas?
Mais bien sûr, car si l'usage usuel de ce mot paraît simple, sa vérité est bien plus profonde. Au sens vieilli, il s'agit simplement de dire, de proférer, de témoigner, ou alors de baver ou de mentir, d'éructer des absurdités, d'arroser les réseaux de toutes sortes de salades. Mais au sens usuel, il va être question d'être ce qu'on dit être, de rendre un témoignage vivant de la chose, d'être soi-même l'évidence de ce qu'on atteste. Par exemple, voici aussi ce qu'écrit Balzac, décrivant son curé de campagne. Au premier aspect, le visage de M. Janvier pouvait paraître disgracieux, tant les lignes en étaient sévères et heurtées. Sa petite taille, sa maigreur, son attitude annonçaient une grande faiblesse physique. Mais sa physionomie, toujours placide, attestait la profonde paix intérieure du chrétien et la force de l'âme. Ses yeux, où semblait se refléter le ciel, trahissaient l'inépuisable foyer de tendresse qui consumait son cœur. Ce qu'il proclamait de lui-même, tout son être en attestait.
Eh bien, Vincent Balzac me fait penser ce matin aussi à une parole de Jésus que vous connaissez sans doute, René également. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Pour les autres, voilà, ouais. Voilà, voilà, vous suivez, j'en suis ravi, vous voyez. Merci. Ce que je veux dire. Alors, je vais poser une question pour en finir. Prologue, 2 points, au commencement, merveille de la parole, chapitre 1 et suivant, 2 points, faites passer le mot de cette bonne nouvelle, mangez-la, vivez-la, allez, oh l'évangile, bon sang, attestez-en. Épilogue et conclusion, 2 points, voici la question d'ailleurs. Peut-on être l'attestant que l'on prétend être si l'on proclame une vérité que l'on détient d'une ferveur passée se défendant d'un désolant ? C'était mieux avant. Où est-on l'attestant que l'on prétend être si l'on enjambe avec audace les écueils de cette nostalgie facile en faisant le choix d'attester de tout son être d'une parole qui, justement, parce qu'elle se prend dans les dents le choc des cultures et les contradictions de son temps, reformule ainsi sans cesse, pour ne pas dire éternellement, sa fougue, sa pertinence et son beau cœur battant. Je pose la question.
Merci Vincent, et puisque vous posez la question Vincent, eh bien moi je me tourne vers René. Qu'auriez-vous envie de répondre ? Ça vous convient cette manière d'attester ?
Oui, alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est d'attester que vous n'êtes pas une IA, et que vous êtes quelqu'un de chair et de sang. Mais par rapport à l'interpellation de la fin, je pense pas que le meilleur était dans le passé. Je pense que le meilleur est devant nous en tant que chrétiens. Ouais. Le meilleur est devant nous parce que quoi qu'il arrive, je sais que mon rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. Voilà. Donc, et que au bout du chemin, il y a la vie éternelle avec le Christ. La vie éternelle avec le Seigneur. Donc je ne pense pas qu'on soit passéiste en regardant derrière nous, en disant « Ah, c'était tellement mieux avant, finalement, tout va à volo, etc. Il faut revenir au passé. » Non, non, non. J'ai cette conviction profonde que tout sera mieux, pas forcément demain, mais après-demain, et après-après-demain, et au bout de l'histoire, quand je serai là avec mon Seigneur.
Et ça implique de s'engager aussi avec des traditions, parfois dans la foi, comme une part de liturgie dans la construction de cette émission, par exemple. Il y a le rendez-vous avec la parole, ce moment où nous ouvrons la Bible pour en écouter un court extrait, généralement choisi par l'invité, et c'est vous, René Lonegro, qui avez choisi de nous faire entendre un texte lumineux qui se situe dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, les versets 35 à 39, et c'est Emmanuel ARM ce matin qui nous fait cette lecture.
Qui nous séparera de l'amour du Christ ? Est-ce que ce sera la détresse, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort ? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour. On nous traite comme des moutons qu'on mène à l'abattoir. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celle d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Quel magnifique texte qui redit d'une certaine façon ce que vous avez dit juste avant. Une dernière question, René. Quel serait selon vous le danger principal pour l'Église aujourd'hui ?
Alors, quand vous dites l'Église, pour moi, il y a deux lectures de ce mot. L'Église universelle, l'épouse du Christ, elle n'a pas de danger. Je veux dire, c'est le Seigneur qui veille sur elle, et quoi qu'il arrive, il aura le dernier mot et il prendra soin d'elle. Pour l'union à laquelle j'appartiens, l'EPUDF, je pense que le principal danger aujourd'hui, c'est finalement une appétence pour l'esprit du monde. C'est ne pas assumer la radicalité et la singularité de l'Évangile dans ce qu'elle peut avoir de décalé par rapport à ce que le monde aujourd'hui dit et attend, y compris des chrétiens. Je pense que c'est là où se trouve le danger pour notre Église, et c'est là aussi où se trouve la mission d'un mouvement comme celui des attestants, qui est toujours de dire, attendez, n'oubliez pas notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est cet Évangile dont nous sommes témoins, dont nous sommes appelés à attester, dans ce qui peut avoir de radical et de singulier, y compris dans un monde aujourd'hui qui n'est plus forcément prêt à l'entendre.
Merci beaucoup René Lonegro d'avoir partagé cette parole vivante avec nous. Pour nos auditeurs, une adresse extrêmement simple, vous l'avez dit tout à l'heure sur internet, lesattestants, tout accroché au pluriel, .fr. Attester, c'est aussi parfois témoigner dans l'histoire face à l'injustice en particulier. En cette fin d'émission, une courte page cinéma autour de Nuremberg qui sort mercredi prochain, réalisé par James Vanderbilt, avec notamment un brillant Russell Crowe et Rami Malek. Un film qui interroge avec force la conscience, la vérité et la responsabilité. Certains films ne racontent pas seulement l'histoire, mais nous obligent à nous interroger nous-mêmes. Et Nuremberg, réalisé par James Vanderbilt, en fait partie. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Douglas Kelly, psychiatre américain, est chargé d'évaluer l'état mental des nazis en attente de jugement. Mais ce qui commence comme une mission clinique devient rapidement une expérience troublante. Et Kelly se trouve face à Hermann Göring, interprété donc par Russell Crowe, d'une intensité absolument glaciale. Leurs échanges dépassent bientôt la relation médecin-patient. Kelly devient le canal entre le nazi et sa femme, enfreint ses propres règles professionnelles et se laisse entraîner dans une toile subtile de manipulation et de mensonges. C'est un film qui explore avec finesse la séduction du mal et la fragilité humaine. Comment quelqu'un de raisonnable peut-il se laisser séduire par la parole d'un criminel habile? Comment nos bonnes intentions peuvent-elles se transformer en complicité inconsciente? La mise en scène joue sur le huis clos, les silences et le regard et nous place au cœur de ce face-à-face moral impossible. Moins qu'un récit judiciaire, qu'un triste miroir de nos tendances à l'autodestruction, de notre incapacité à tirer des leçons de l'histoire, Nuremberg laisse le spectateur avec une question qui résonne bien au-delà de la salle de cinéma. Combien de fois encore allons-nous répéter les mêmes erreurs sous le charme de ceux qui savent manipuler nos failles? Un film événement en salle ce mercredi, avec une petite réserve malgré tout concernant certains documents projetés à l'intérieur du film, sans doute difficilement supportables pour des spectateurs trop sensibles. Et pour faire écho au rendez-vous avec la parole, « Nous séparer », c'est le titre « Si Dieu pour nous s'engage », extrait de l'album « Épiclèse », un projet musical et spirituel de pop recueilli réalisé au Temple du Marais, musique de Melchior Teschner et le texte de Jean-Louis Decker, arrangé par Tania Monnier et Estienne Ril.
Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre nous? En son Fils d'âge en âge, il nous accorde tout. Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur, qui pourra compromettre les élus du Seigneur? Nous attendons la gloire que Dieu révélera, heureux de la victoire.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost et avec Pierre-Henri à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. Sur France 2, ce matin à 10h dans Présence protestante, c'est un documentaire de Jean-Yves Fischbach, Jean Calvin, prophète malgré lui, dans la collection Histoire vivante du protestantisme. Mais ici même, sur France Culture, bientôt 9h, et ce sont vos informations suivies par Talmudic avec Marc-Alain Wachnin. À dimanche prochain, pour d'autres chemins de foi et d'espérance, avec de la poésie au programme cette fois-ci, et très très bonne journée à chacune et chacun.
Et Dieu nous glorifie.